La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, il ne faut jamais lire qu'un scolastique, parce qu'ils ne font tous que se copier. Il ne faut jamais lire qu'un scolastique, on pourrait dire qu'un seul, parce qu'ils ne font tous que se copier. Ainsi Montesquieu s'exprime-t-il dans le Spicilège à la pensée 171. La scolastique, une série de perles sur le même collier, les perles absolument identiques qui ne font que se répéter. Autrement dit, une caricature de la pensée, selon les siècles, un dogmatisme latent, bref, une vitrine qu'il faut absolument changer. La scolastique, qu'est-ce que c'est? Est-ce la philosophie réaliste? Est-ce le thomisme? Trois termes qui semblent être interchangeables. Et Maritain, au XXe siècle, propose une nouvelle formule qui nous permettra de discerner entre ces trois termes. La formule, la voici. Elle ne concerne pas le thomisme, ni la scolastique, ni la philosophie réaliste. Elle concerne un bilan de vie. Dans ma jeunesse, j'ai cassé des vitres, puis j'ai tâché d'ouvrir des portes. C'est un bilan de vie qu'on retrouve à peu près dans toute cette formule-là dans Le Paysan de la Garonne, écrit à Toulouse. Il s'agit de rappeler qu'à 17 ans, Maritain était pratiquement anarchiste, en tout cas sans foi ni loi, et qu'il fallait pendre le dernier des prêtres avec le boyau du dernier des rois, ou inversement, que Proudhon prenait la propriété, c'est le vol, et qu'il fallait absolument défaire l'ère bourgeoise. Deuxième partie de la phrase, j'ai tâché d'ouvrir des portes. On sent une conversion, il s'agit plutôt d'ouvrir que de fermer, ou même de détruire, mais il y a un effort dans le tâcher. On sent qu'il y a une forme d'humilité. On n'est pas sûr d'arriver à ouvrir les portes. Il y a un effort, c'est-à-dire une assaise, une tendancialité à ouvrir les portes, mais non pas la certitude d'un résultat. Eh bien, il me semble que cette manière de voir, c'est vraiment la manière que le philosophe Maritain propose pour envisager le thomisme, le réalisme. Mais pas à la scolastique. Justement, le thomisme se différencie de la scola au sens de école, même si on a souvent superposé l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que pour Maritain, le thomisme est une philosophie vivante qu'il s'agit de faire progresser uniquement par approfondissement et certainement pas par répétition. Il ne s'agit pas de répéter ce qu'un prédécesseur a pu dire, mais de comprendre entre les lignes ce qu'il aurait pu continuer à écrire en approfondissant. Une fois qu'on a décortiqué cette phrase, comment comprendre cet effort? J'ai tâché d'ouvrir des portes qui est accolé à une révolte. Dans ma jeunesse, j'ai cassé des vitres. Quelle est cette révolte? C'est la révolte d'un jeune homme assoiffé de vérité. Mais la vérité ne lui est pas proposée parce qu'on est dans un relativisme qui est essentiellement celui d'Auguste Comte, avec ses trois âges que vous connaissez, l'âge mythique, l'âge métaphysique et l'âge scientifique, celui du progrès. Certes, ces âges se déclinent au plan de l'histoire, de la grande histoire, des différents siècles, des différentes époques, mais ces âges se déclinent aussi dans la pensée du philosophe. Chaque philosophe va passer par un âge mythique, et aussi l'âge théologique, disons-le pour Auguste Comte, puis passera par un temps métaphysique, qui est pour lui un flou artistique, pour Auguste Comte, et il arrivera, s'il y arrive, au temps scientifique, au temps de la science du progrès. Pour Maritain, cette manière de voir, qui a été transmise par ses professeurs, par ses maîtres, elle a imprégné tout le XIXe siècle, a été contrebalancée par les cours de Bergson, qui proposait au contraire, cette fameuse phrase ressassée dans les cours au Collège de France, Bergson disait « Nous vivons dans l'absolu ». Il y a au contraire un éros métaphysique, c'est-à-dire un désir métaphysique chez Bergson, et c'est à la suite de Charles Péguy que Raïssa et Jacques Maritain vont aller au Collège de France en 1902 écouter les cours de Bergson, qui vont les marquer. Qui vont les marquer parce qu'il y a une respiration métaphysique, une autre approche de la vérité. On pourrait simplifier en disant que la vérité ne se confond pas avec le vrai. En science, vrai et faux s'opposent. En métaphysique, c'est plutôt vérité-mensonge, ce couple que l'on retrouve dans le quatrième évangile, l'évangile joannique, où le père du mensonge, c'est le diable, qui s'oppose à la vérité qui est le Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc, la vérité ne comporte pas la même idée quand on est dans une vision binaire vrai-faux ou quand on est dans une vision mensonge-vérité. Vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose de plus large dans le deuxième couple, mensonge et vérité. Regardons un peu ce que pourraient être les conséquences d'une vision binaire de la vérité. Je vais prendre un exemple qui vient du latin et du grec sur le verbe pardonner. Comment dit-on pardonner en latin? Eh bien, on prend la racine gnosko, qui veut dire je connais. Et on met un préfixe que vous connaissez tous, un préfixe privatif que vous trouvez dans mobile, immobile, visible, invisible, etc. Et en latin, ça donne ignosco. Donc c'est « je ne connais plus ». J'annule. Donc on est dans le vrai-faux. C'est donc une vision du pardon qu'on pourrait dire binaire. Je prends une comparaison, imaginons qu'il y a une tache sur un tableau, et puis je prends une éponge, j'efface la tache, il n'y a plus de tache. Voilà, la vision binaire, je connais, je ne connais plus. Le grec, lui, a une toute autre vision. La racine est la même, gnosko, je connais. Mais le préfixe change. Ce n'est plus un préfixe binaire, c'est sun. Sun qui veut dire avec. Donc, je connais avec, je fais donc un bout de chemin avec toi pour comprendre. Il y a donc un engagement éthique, j'allais dire un engagement dans la durée, un engagement dans la relation à l'autre. Dans un acte de compréhension, un acte d'ouverture, une durée dans cette ouverture même. Et donc, au bout d'un certain temps, le sun gignosko devient un pardon. Vous comprenez la différence? La tâche, si on peut ainsi parler du péché, n'est pas effacée, elle demeure, mais elle a été prise dans un halo de compréhension, un halo plus large, plus vaste, qui est le pardon. On n'est absolument pas dans une vision binaire. Ceci nous fait comprendre la différence entre vrai-faux, vision binaire, qui peut engendrer une vision binaire du pardon, et une vision beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus large, articulée sur le couple vérité-mensonge, qui est le sun gignosko des Grecs. Je fais un chemin avec toi. Et on pourrait dire que la parabole des disciples d'Emmaüs en est un bel exemple. Il faut se temps de marche ensemble pour être éduqué. Comment Maritain comprend-il ce rapport à la vérité? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Il s'agit d'une exigence. La vérité est une exigence, oui, parce qu'elle est une aspiration de tout homme. Nous venons d'entendre les morceaux en forme de poire de Eric Satie. Maritain accompagna Eric Satie, il le vit dans ses derniers jours sur son lit d'hôpital, parce que Maritain, de 1924 à 1939, a reçu toute l'avant-garde artistique à Meudon, et ces jeunes gens assoiffés de vérité à travers l'art, à travers la poésie, à travers la musique, la peinture, venez en quelque sorte à la source. Donc la vérité est une aspiration qui a une exigence quand on j'allais dire, l'a trouvé. On ne peut pas dire qu'on a trouvé la vérité. Mais Maritain, par sa conversion et son baptême, donc le 11 juin 1906, a été comme renversé, catapulté, on pourrait dire. Et il a trouvé sa vocation, il dira « je serai l'apôtre des temps modernes ». Il veut œuvrer pour le thomisme. « Malheur à moi si je ne thomistise pas », tel est son mot d'ordre. Donc la vérité, c'est le Christ pour lui, et elle est une exigence. Alors je vais vous donner un exemple d'exigence avec un de ses grands amis, Berdiaev. Berdiaev et Maritain se rencontraient au studio russe dans les années 20, et puis ça s'est prolongé un petit peu dans les années 30, où il y avait des débats réguliers sur finalement deux théologies, deux manières de voir, une théologie apophatique, une théologie cataphatique pour l'Occident, et une théologie qui s'arrête en insistant sur le mystère de Dieu, donc sur le non-disciple de Dieu pour l'Orient. Et de ces débats, ben, il y a eu des controverses, vous imaginez bien. Et l'une d'entre elles a porté sur un livre de Berdiaev, un livre intitulé « Esprit et liberté » qui a été édité en 1933. Et Maritain le reçoit, le feuillette, n'a pas le temps de le lire complètement à fond et dit à Berdiaev, qui est son meilleur ami, qui est un bon ami, il se voit souvent. Je le lirai plus tard, mais voici ce que, en toute amitié, il lui dit. C'est-à-dire que l'amitié aussi à son exigence de vérité. L'amitié, j'allais dire, est beaucoup plus qu'un sentiment, elle est un engagement, et elle devient un biotope au fil des ans. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on ne va pas la retirer. Maritain n'annule jamais une amitié, on ne peut pas dire j'ai perdu ou j'ai rompu une amitié, ça n'a pas de sens. C'est un engagement. L'amitié, c'est un engagement, l'amour est le tronc commun, on parle d'amour, d'amitié, d'amour avec un conjoint, et puis d'amour fou avec Dieu. Mais il y a un tronc commun qui est amour chez Maritain. À l'imitation, on va dire, de Aristote, qui met l'âme comme tronc commun, et puis il met par-dessus les adjectifs végétatives pour désigner le règne des végétaux, l'âme sensible pour le règne animal, et l'âme intellective pour l'homme. Et les trois sont superposés, évidemment, dans l'homme. Hein. L'homme est d'abord un animal. Voilà. Donc, ici, l'amour comme point de base, on pourrait donc pousser un peu la logique de Maritain en disant que toute relation humaine a comme base l'amour, donc un amour de collégialité, quand on est avec un collègue de travail, un amour de profession, c'est-à-dire quand on va chercher son pain ou quand on fait réparer sa voiture chez le garagiste. On pourrait extrapoler, et c'est magnifique, parce que finalement ça rejoint l'évangile. Tout homme est mon frère, mon prochain, aimez-vous les uns les autres. Donc ceci est important parce que l'amitié a ses exigences par rapport à la vérité. Être ami, ce n'est pas tout passer. Ce n'est pas dire, bah oui, peut-être que... Non, il y a un moment où on met les points sur les i, bah, quitte à ne pas être compris par l'autre. L'autre peut claquer la porte. Et Maritain donne un exemple ici de cette exigence. Vous allez voir sa radicalité, qui nous permet d'avancer une autre phrase très connue de Maritain, que j'aimerais vous donner pour que vous la reteniez. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Beaucoup ont l'esprit mou, et le cœur sec. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Beaucoup ont l'esprit mou et le cœur sec. L'esprit dur, c'est quoi ? Une clarté dans les concepts. Il faut que ce soit très clair. Il faut aimer le concept. Et le concept est dur comme un diamant. C'est pas une notion. C'est pas un à peu près. Et le cœur doux, ben c'est l'accueil. L'accueil de l'autre qu'il a superbement démontré en ouvrant sa maison de 1924 à 1939 à Meudon. Voici donc cette lettre, datée du 23 décembre 1933. « Bien cher ami, écrit Maritain à Berdiaev. J'ai reçu votre lettre au moment où j'allais vous écrire. Il y a trop longtemps que nous ne nous sommes vus. Depuis mon retour du Canada, j'ai été très fatigué et l'été a été très dur pour Aïssa et pour moi. J'espérais lire à fond votre livre « Esprit et liberté » pour pouvoir en causer avec vous. Je n'ai pu encore que le parcourir. Assez pour l'apprécier et pour apprécier en particulier l'importance de cet ouvrage et pour en déplorer la métaphysique, qui est à mon avis une destruction de la métaphysique. Généreuse et stimulante, et comme tout ce qui vient de vous. mais une destruction quand même et une catastrophe. Mon intention est de reprendre votre livre dès que j'aurai un peu de loisir, de l'étudier en détail et d'écrire un article sur lui où je voudrais essayer de dissiper certains malentendus et qui sera en même temps qu'un signe de notre dissentiment philosophique, un témoignage de la profonde amitié qui nous unit. Mais je dois d'abord préparer 3 conférences que je ferai à Rome en mars. Ensuite, Esprit et Liberté sera ma première tâche. Je vous remercie de ce que vous m'écrivez à propos de mon dernier livre. Mais je vois là encore bien des malentendus et un usage trop sommaire d'idées générales comme prima de la nature sur la liberté ou de la liberté sur l'être, intellectualisme, etc. C'est justement contre de telles simplifications que je me bats. Si la liberté suppose nécessairement l'esprit et l'esprit l'être, et pour moi non plus, la liberté ne s'identifie pas avec le libre arbitre. Mais si on nie le libre arbitre, on ruine la liberté. Une philosophie qui affirme un primat absolu, ontologique, de la liberté sur l'être, ne sera pas une philosophie de la liberté, mais une destruction de la liberté. Quant à l'optimisme que vous m'attribuez, à moi qu'on accuse ordinairement de pessimisme, il se réduit à affirmer que Dieu est amour et qu'il triomphera à la fin, et il n'a rien à voir avec l'intellectualisme grec. C'est l'optimisme de l'Apocalypse. Et je ne vois pas comment on peut être chrétien si on n'a pas cette conception de la réalité et de l'histoire. L'Évangile est très au-dessus de la philosophie et de tout système philosophique, mais il y a un certain intellectualisme dans l'Évangile, certes. L'Évangile met l'intelligence avec un grand T au principe des choses. Au commencement était le Logos. Il croit au principe de contradiction, à l'opposition irréductible du oui et du non. Il croit à la réalité des choses. Il nous dit que si notre œil est mauvais, tout notre corps sera ténébreux. C'est parce qu'elle suppose une raison intacte que la folie de la croix est le paradoxe divin dans toute sa sublimité et triomphe divinement de la raison. Nos amitiés à vous deux et nos meilleurs vœux pour le temps de Noël. À bientôt, j'espère. Tâchons de nous voir au début de janvier. À vous, bien affectueusement, Jacques Maritain. Splendide lettre qui est fondée sur l'exigence de l'amitié, de dire la vérité en se maintenant plus que jamais, et la vérité qui peut froisser. Le mot malentendu vient plusieurs fois. Il s'agit de malentendus conceptuels et donc de clichés, comme celui qui a ouvert l'émission avec la citation de Montesquieu disant qu'il suffisait de lire un scolastique pour avoir tout lu. La vérité a ses exigences. Alors, comment concevoir un dialogue? Les opposants, ou ceux qui n'ont pas lu, mais qui ont entendu dire que le thomisme, la scolastique sont des dogmatismes, n'ouvriront pas un livre. Comme Montesquieu, on en lit un, donc c'est pas la peine. Mais comment imaginer un dialogue philosophique? N'en est-il pas de même pour les thomistes réalistes? Vont-ils ouvrir du John Dewey? Vont-ils ouvrir la pensée pragmatiste? Vont-ils ouvrir l'existentialisme de Sartre? Etc, etc. Grande question, puisqu'on a des fractures philosophiques. Et la fracture qui fait que Maritain est laissé de côté actuellement, elle est justement, elle pose question. Alors Maritain y a pensé. L'exigence de la vérité fait qu'il faut envisager un dialogue philosophique et il va s'amuser à un jeu. Comment un pragmatiste verrait-il le thomisme et ce qu'on pourrait attendre de lui pour qu'il s'ouvre et vice-versa? Ce jeu, vous le trouvez dans Raison et Raison, une œuvre de 1947. Il est encore ambassadeur à Rome, près le Vatican. Et l'ambassade s'arrêtera en 1948, il retournera à Princeton. Voici comment il pose la question. Les philosophes peuvent-ils coopérer? Ce problème est éternel, mais particulièrement grave aujourd'hui. Et il attire notre attention sur l'une des plus humiliantes conditions de notre manière de penser humaine, conceptuelle et discursive. À mon avis, la coopération entre philosophes ne peut être qu'une victoire de l'intelligence sur elle-même et sur l'univers de pensée qu'elle a créé. Victoire difficile et précaire, accomplie par la rigueur et la justice intellectuelle sur la base d'antagonismes irréductibles et inévitablement durables. Le scolastique ne manquera pas de faire valoir, quand il va lire la philosophie pragmatique, que tout ce processus de vérification pragmatique n'est qu'une préparation extrinsèque ou une confirmation extrinsèque par rapport à la tâche de la philosophie elle-même. Il concerne à la fois l'intelligence et la volonté, tandis qu'au contraire, la métaphysique est une connaissance purement spéculative et intellectuelle. Sa pureté, sa rigueur, sa noblesse exigent qu'aucune interférence de la volonté et des pouvoirs affectifs ne vienne jeter la plus légère ombre de subjectivité sur les nécessités intelligibles qui sont l'affaire de la connaissance métaphysique. Si l'on refuse à l'instrument intellectuel et aux ressources de la raison le pouvoir ou la possibilité de saisir l'existence de la cause de l'être, on offense à la fois Dieu et l'intelligence. Donc comment en sortir? Maritain dit « À la racine de la philosophie thomiste, il y a l'affirmation du primat de l'être sur le devenir. À la racine de la philosophie pragmatiste, comme de la philosophie hegelienne, il y a l'affirmation du primat du devenir sur l'être. Nous pourrions formuler cette opposition d'une autre manière en disant que la place cruciale qui dans le thomisme est tenue par la vérité est tenue dans le pragmatisme par la vérification. Encore un autre terme, au début d'émission nous avons vu différence entre vrai-faux et vérité-mensonge, ici c'est vérité et vérification. Comment surmonter les deux? Aux yeux du pragmatiste, la vérité ne fait qu'un avec la vérification. Aux yeux du thomiste, la vérification n'est qu'une voie et un moyen pour se saisir de la vérité. Et quand l'intelligence est faite elle-même vraie, la vérité ainsi atteinte possède une consistance objective parce qu'elle est la conformité vitale de l'intelligence avec ce qui existe, d'une manière actuelle ou possible, indépendamment de l'esprit. Et si humble qu'elle puisse être, cette vérité est une fin dans laquelle l'intellect parvient à la fruition et obtient sa perfection, son repos et sa joie. Toute vérité, même ayant trait au plus fugitif événement, a quelque chose de l'immuable. Ce papillon touche cette rose, il s'envole. Du moins, il restera éternellement vrai qu'il a touché la fleur à un moment donné. Et les vérités qui concernent les nécessités internes des essences sont immuables par leur objet même. Jouir de la vérité pour l'amour de la vérité, sans rien de plus, est la vie même de l'intelligence en tant qu'intelligence, et le but de la science en tant que science, comme de la sagesse métaphysique. Tandis que le thomiste insiste ainsi sur la valeur contemplative de la connaissance, le pragmatisme s'en défie, comme d'une illusion statique, contraire à la réalité de la vie intellectuelle qui n'est que devenir et labeur. En somme, cette querelle entre l'être et le devenir, entre la vérité et la vérification, décèle un antagonisme profond que les meilleurs efforts restent incapables de surmonter. Comment la surmonter? La suite au prochain épisode.